au service francophone vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 26 mai, chez Rubin Dorcy à Washington, accompagné de Nathalie Barge. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Au sommaire ce soir, en République centrafricaine, forte tension à Bangui. Au Niger, signature aujourd'hui d'un accord entre le gouvernement et le géant français de l'uranium Areva.
C'est un accord juste et équilibré qui satisfait les Nigériens, a indiqué le ministre en charge des mines Omar Hamidou Tiana.
L'Égypte vote pour un nouveau président dans une élection sans surprise présidentielle en Ukraine. Victoire dès le premier tour pour l'homme d'affaires Petro Porochenko. Le chef de l'Église catholique, le pape François, arrive au terme de sa visite en Terre Sainte. Sans oublier les sports et la musique en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
En République centrafricaine, forte tension aujourd'hui à Bangui. Des tirs à l'arme lourde et légère ont secoué toute la journée le 3e arrondissement de la capitale. Plusieurs témoins parlent des accrochages opposant les anti-Balaka à des musulmans armés. Le point avec Idriss Fall.
Les affrontements ont débuté hier après l'assassinat de 3 jeunes musulmans par des hommes armés assimilés à des anti-Balaka. Ces jeunes participaient à un match de football pour la réconciliation dans un quartier du 3e arrondissement. Les tirs ont doublé d'intensité avec l'interposition des soldats burundais de la MISCA. Les forces françaises de Sangaris ont pris position à l'intersection des 3e et 5e arrondissements et un hélicoptère de combat a survolé le secteur. Ces violents affrontements ont semé la panique parmi les déplacés de l'aéroport. Selon Abakar Ousmane, porte-parole de la communauté musulmane de PK5, les heurts opposent des jeunes musulmans mécontents de PK5 à des anti-Balaka des quartiers Boeing, Fatima, Katine et Boulata. Les responsables des anti-Balaka se rejettent la responsabilité pour cette nouvelle montée de tension à Bangui.
Par ailleurs, hier, dans la capitale centrafricaine, nouvelle attaque contre des populations musulmanes. 3 personnes ont été tuées par des hommes assimilés à des anti-Balaka alors qu'ils devaient participer à un match de football pour la réconciliation. Ousmane Abakar, porte-parole des musulmans du quartier PK5 de Bangui.
Les 3 jeunes, là, ils sont partis vers le 5e arrondissement parce qu'avant-hier, il y a un dirigeant des anti-Balaka qui est venu faire PK5 pour faire la paix entre les chrétiens et les musulmans. Ces jeunes sont organisés le match de football entre les jeunes musulmans de PK5 et les jeunes chrétiens du quartier 5e arrondissement. Les jeunes musulmans de PK5 sont organisés. Ils ont parti là-bas pour aller jouer ce match et directement, il y a un des anti-Balaka. Il a envoyé ses éléments et ils ont venu arrêter ces jeunes musulmans. Ils ont massacré tous. Maintenant, on nous a amené seulement les 3 corps de 3 jeunes. Il y a d'autres jeunes qui sont restés, on ne sait jamais. Est-ce que les restes de ces jeunes-là, ils sont encore en vie ou ils ont été massacrés, on ne sait jamais. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore le niveau des restes des jeunes-là.
L'ONU demande à Brazzaville de cesser immédiatement ses opérations d'expulsion de ressortissants de la République démocratique du Congo. Depuis le 4 avril, plus de 130 000 personnes ont été expulsées de la République du Congo, indique la mission des Nations Unies en RDC. Selon le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, et la représentante spéciale des Nations Unies sur la violence sexuelle dans les conflits armés, Zainab Bangoura, ces expulsions seraient accompagnées de violations des droits humains, dont des violences sexuelles.
Le gouvernement du Niger et le géant français du nucléaire Areva ont signé un accord renouvelant le contrat d'exploitation de 2 mines d'uranium. Areva a accepté qu'une loi minière de 2006 soit appliquée à la Somaïr et la Cominac, les sociétés minières contrôlées partiellement par le groupe français. Ceci permettrait d'accroître la redevance minière et les deux entreprises seront exemptées de TVA.
Les Égyptiens ont commencé le vote pour une élection présidentielle sans surprise. L'ancien chef de l'armée Abdel Fattah al-Sissi est assuré de remporter le scrutin face à un seul candidat, Hamdine Sabahi, figure politique de gauche, Lionel Gaïma.
Quelques 53 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce lundi et demain mardi. Il y a eu de longues files d'attente devant les bureaux de vote du Caire, dont les murs sont couverts de portraits d'Abdel Fattah al-Sissi, 59 ans. Le candidat Sissi a voté au Caire, disant espérer un taux élevé de participation. Autrement dit, il veut un plébiscite. Son unique rival, le leader de gauche Hamdine Sabahi, ne semble pas faire le poids car Sissi est tellement populaire qu'il n'a pas eu besoin de battre campagne. Le maréchal à la retraite dirige, de fait, le pays depuis qu'il a destitué et fait emprisonner le président islamiste Mohamed Morsi il y a 11 mois. Depuis ce coup de force, plus de 1400 pro-Morsi ont été tués. Au moins 15 000 autres sont en prison et plusieurs centaines ont été condamnés à mort dans des procès expéditifs. Les frères musulmans, qui avaient remporté toutes les élections depuis la chute de Moubarak, sont aujourd'hui affaiblis, divisés et contraints à la clandestinité. Ils ont appelé au boycott en disant qu'ils ne reconnaîtront pas les résultats qui sont attendus d'ici le 5 juin.
L'épidémie d'Ebola a fait ses premières victimes en Sierra Leone. L'Organisation mondiale de la santé dit que 5 personnes sont mortes de fièvre hémorragique, dont un cas a été confirmé dans la zone de Kwendu, située près de la ville guinéenne de Gekidou, où se sont déclarés les premiers cas de fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest. Jusqu'ici, la maladie a tué 179 personnes en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le nouveau président de l'Ukraine se nomme Petro Porochenko. Il est donné vainqueur de l'élection présidentielle avec 55% des voix, selon des résultats partiels publiés ce lundi. Mais qui est ce nouvel homme fort de Kiev? Des précisions avec Félix Yepassi-Zembrou.
Petro Porochenko, âgé de 48 ans, est un milliardaire qui a fait fortune dans le chocolat. Il a acquis, selon le magazine Forbes, une fortune estimée à 1,3 milliard de dollars, faisant de lui la 7e fortune d'Ukraine. Il est né lui-même d'un père industriel de l'ère soviétique, élevé dans une famille russophone à Odessa, aux portes de la mer Noire. Son parcours politique est sinueux, marqué par plusieurs passages au gouvernement ou au Parlement. Il a contribué à la fondation du parti de l'ex-président pro-russe Viktor Yanukovych, destitué en février, dont il a été un moment le ministre de l'économie. Mais il a aussi été le ministre des Affaires étrangères de son principal opposant. Pro-occidental, il envisage de mettre fin à l'insurrection séparatiste dans l'est de l'Ukraine et de mener son pays sur la voie de l'intégration européenne.
Les partis d'extrême droite et de gauche ont remporté de solides victoires dans plusieurs pays aux élections européennes de dimanche. Jacques Aristide.
Oui, d'importants gains qualifiés de percée des eurosceptiques pour le Premier ministre français Manuel Valls. Il s'agit d'un séisme pour l'Europe et pour son pays. La France, où le Front national de Marine Le Pen est arrivé en tête.
Ce soir, je remercie les Français. Nous avions raison d'avoir confiance en eux. Le peuple souverain a parlé, haut et clair, comme dans tous les grands moments de son histoire.
Même scénario ailleurs, dont en Grande-Bretagne et au Danemark, où les partis nationalistes ont raflé la majorité des sièges au Parlement européen. Des formations d'extrême droite qui s'opposent généralement à l'immigration et cherchent à réduire les pouvoirs de l'Union européenne. En revanche, schéma diamétralement opposé dans certains autres pays où c'est l'extrême gauche qui se taille la part du lion, comme en Grèce où la coalition de gauche radicale est arrivée en tête, elle est fermement contre le plan d'austérité du gouvernement grec. Au total, 751 sièges étaient en jeu lors des scrutins d'hier dans 21 pays. Et en dépit du triomphe des candidats anti-Union européenne, les partis pro-UE conservent la majorité au Parlement européen.
Au terme de sa mission apostolique en Terre Sainte, le pape François a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président Shimon Peres. Le chef du gouvernement israélien a expliqué au souverain pontife pourquoi son pays juge nécessaire d'ériger un mur de séparation autour de la ville de Bethléem en Cisjordanie. Le président Shimon Peres a remercié le Saint-Père d'essayer de relancer les pourparlers de paix israélo-palestinien. Plus tôt dans la journée, le pape François a visité le Dôme du Rocher dans le troisième lieu saint de l'islam où les musulmans pensent que le prophète Mahomet est monté au ciel.
L'Inde a officiellement un nouveau premier ministre. Narendra Modi a prêté serment aujourd'hui à New Delhi en présence de plusieurs leaders et dignitaires mondiaux, dont le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif. C'est la première fois qu'un dirigeant pakistanais assiste à l'investiture de son homologue indien.
Toujours en Inde, au moins 30 personnes ont trouvé la mort et une cinquantaine d'autres ont été blessées dans un accident ferroviaire dans le nord du pays. L'accident s'est produit avant l'investiture du Premier ministre Narendra Modi qui a exprimé ses condoléances aux familles des victimes.
Le leader du coup d'État en Thaïlande, le général Prayut Chan-o-cha, a annoncé que le roi Bhumibol Adulyadej a approuvé sa nomination comme chef du conseil militaire qui va diriger le pays. Le nouvel homme fort dit qu'il n'aura d'autre choix que de recourir à la force en cas de nouvelles manifestations. Le général Prayut promet d'organiser des élections dans le meilleur délai, mais il n'a pas précisé de date.
C'est aujourd'hui le jour du souvenir, Memorial Day, ici aux États-Unis. Des cérémonies, notamment à Washington, la capitale, rendent hommage aux soldats tombés pour la patrie. Le président Obama leur a rendu hommage pendant une visite surprise hier en Afghanistan et a déposé une gerbe sur la tombe du soldat au cimetière national d'Arlington, dans la banlieue de la capitale.
Voilà pour le journal, il est 18h40 en temps universel, 14h40 ici à Washington, chez Robin Dorcy en compagnie de Nathalie Barge. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Le comité international de la Croix-Rouge a pu rendre visite à 50 soldats maliens faits prisonniers à la suite des récents affrontements à Kidal. 32 personnes sont détenues par le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad et 18 par le Mouvement national de libération de l'Azawad. Camille Gros-Didier a joint Valérie Mbao-Nana, responsable du CICR au Mali.
Pour l'instant, nous avons pu rapidement leur donner une petite assistance d'urgence, notamment des nattes et puis des produits d'hygiène, parce que c'est très important qu'ils puissent au moins avoir ce minimum-là. Et puis, il y en avait aussi parmi eux qui n'avaient pas encore pu communiquer avec leur famille. Donc, nos équipes ont permis à ceux-là de pouvoir communiquer directement et donner de leurs nouvelles à leur famille à travers des appels téléphoniques.
Et vous comptez renouveler votre visite dans les prochains jours?
Absolument. Il est très important que le CICR puisse revoir ces personnes-là autant de fois qu'il le souhaite, notamment pendant toute la durée de leur parcours carcéral. Donc nous restons en contact avec les forces détentrices afin de nous assurer que nous pourrions les revisiter dans les prochains jours et nous espérons que ça se fera comme nous le souhaitons.
Est-ce que vous avez pu faire des recommandations aux autorités concernant les conditions d'incarcération?
Quelles que soient les raisons de leur détention, l'intégrité physique et morale doit être respectée et ils doivent également avoir accès à de l'eau, de la nourriture et aux soins de santé. Ça, c'est très important. En ce qui concerne maintenant les recommandations et nos observations, nous les faisons toujours aux forces détentrices, quel que soit le pays ou le contexte où nous le faisons de manière confidentielle dans un dialogue que nous avons avec les autorités ou les groupes détenteurs concernés. Je voudrais ajouter aussi que, en plus de cette visite que nous avons pu mener en faveur des personnes détenues à Kidal, nos équipes également sur place essayent de faire en sorte que la question de l'eau, qui pourrait être le prochain problème que Kidal va connaître, puisse trouver des solutions. Kidal, c'est une région où la température ou le climat est assez difficile. Il est donc important que l'approvisionnement en eau ne s'arrête pas et nos équipes sont mobilisées pour nous assurer une continuité dans ce domaine-là. Nous avons également des informations qui ont pu nous parvenir et nos équipes ont pu noter l'arrivée à Gao de quelques centaines de familles et nos équipes se mobilisent actuellement pour voir dans quelle mesure on peut leur apporter une assistance d'urgence. À l'hôpital de Gao, nous avons également une équipe médicale qui actuellement a pu déjà prendre en charge un peu plus de 50 personnes blessés dans le cadre des combats qui ont récemment eu lieu à Kidal.
Valérie Mbao-Nana, responsable du comité international de la Croix-Rouge au Mali.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
L'accord portant renouvellement du partenariat stratégique entre le groupe français Areva et le Niger pour l'exploitation de l'uranium a été signé ce matin à Niamey par le ministre nigérien des Mines Omar Hamidou Tchiana et le PDG d'Areva, Luc Oursel. Des précisions avec notre correspondant au Niger, Abdoulrazak Idrissa.
C'est un accord juste et équilibré qui satisfait les Nigériens, a indiqué le ministre en charge des mines Omar Hamidou Tchana. Le Niger avait en effet, dans le cadre de ces discussions, trois priorités.
Premièrement, l'application de la loi 2006. Deuxièmement, la gouvernance. Et troisièmement, le développement local. Areva nous a compris et nous a donné satisfaction. Je ne peux que m'en féliciter et les remercier. Nous avons dit que c'est la loi minière 2006 qui va s'appliquer. Et c'est cette même loi qui dit qu'en fonction du ratio sur le résultat d'exploitation et le chiffre d'affaires qui dépendra, est-ce que c'est 5%, est-ce que c'est 9%, est-ce que c'est 12%. Donc bien sûr que ça sera les 12%.
Areva consent donc de se faire appliquer la loi minière de 2006, exigence forte de la société civile active dans le domaine minier, mais les Nigériens vont devoir attendre encore le début de l'exploitation du gisement d'Imouraren, annoncé pour être la deuxième plus grande mine à ciel ouvert d'uranium en Afrique. Luc Oursel, président directeur général du groupe Areva.
Sur le projet Imouraren, nous avons convenu que la mise en production du gisement dépendra de l'amélioration des conditions de marché. Les prix actuels de l'uranium, très bas, ne permettant pas aujourd'hui une exploitation rentable. C'est la voie de la raison. Ni le Niger, ni Areva, ni les autres partenaires n'auraient d'intérêt à mettre sur le marché une production qui pourrait ne pas trouver preneur et ferait baisser encore les prix de l'uranium. Le comité stratégique paritaire entre l'État du Niger et Areva, qui a été défini dans cet accord, permettra d'analyser régulièrement l'évolution du marché et de nous guider pour choisir la meilleure date de mise en exploitation au moment le plus favorable.
Le géant du nucléaire français Areva s'est par ailleurs engagé à réhabiliter une partie du tronçon qui relie la ville d'Arlit où est exploité l'uranium au reste du pays. Autre engagement, c'est la construction d'un siège social pour la société à Niamey après plus de 40 ans de présence. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Revenons aux élections européennes qui se sont déroulées hier dans 21 des 28 nations de l'Union européenne, un premier vote ayant déjà eu lieu dans 7 pays auparavant. C'est surtout la percée des partis d'extrême droite et de gauche qui polarise l'attention. Pour un décryptage, Jacques Aristide s'est entretenu avec Magali Balint, chercheuse associée à l'IRIS, spécialiste des extrémismes et nationalismes en Europe.
Comment expliquer cette poussée ? Je crois qu'en fait, il y a une série de raisons. C'est à la fois lié au discrédit que les partis traditionnels en Europe subissent, les partis traditionnels que l'on accuse d'être finalement incapables de résorber la situation, que l'on accuse d'être souvent corrompus quand même. Il y a aussi, bien sûr, une montée de la critique envers l'Union européenne. Et puis, à côté de ça, il y a bien sûr le contexte à la fois de crise économique et sociale. De plus en plus de citoyens européens doutent. Doute de la capacité de cette Union européenne à les protéger, doute de leur avenir et de ce qu'ils vont devenir face notamment à la question de l'immigration, bien sûr. Vous savez que l'immigration de masse est un vrai sujet aujourd'hui dans l'Union européenne. Et donc tout cela, bien sûr, alimente une sorte de malaise identitaire, disons, sur lesquels, bien sûr, ces partis d'extrême droite eurosceptiques surfent et notamment proposent des solutions, des réponses, alors que les autres partis politiques traditionnels, donc, eux, ne s'occupent pas de ces questions et finalement n'apportent pas de réponse aux citoyens européens.
En France, le Front National de Marine Le Pen est arrivé en tête. Quelle lecture faites-vous de cette victoire historique du FN et quelles en seront les séquelles pour votre pays au Parlement européen ?
Certes, cette élection marque la victoire du Front National, mais cela ne signifie pas que le Front National sera prochainement, systématiquement devant les partis traditionnels. Pour ce qui est maintenant de l'image de la France au Parlement européen, il est bien évident que ça risque de dévaloriser l'image de la France, qui est quand même l'un des pays fondateurs de l'Union européenne, qui a œuvré depuis 1957 à l'évolution de l'Union européenne et qui aujourd'hui se retrouve forcément dans le camp des eurosceptiques. En tout cas, les Français viennent d'élire comme premier parti français le Front National, qui est profondément europhobe. Donc c'est sûr que symboliquement, si vous voulez, c'est très fort pour la France. Ceci étant, n'oublions pas que c'est eurosceptique au Parlement européen, et donc le FN reste minoritaire. Donc si vous voulez, l'influence réelle politique qu'ils auront au Parlement européen sera bien sûr importante, plus qu'elle ne l'était auparavant, mais elle ne sera pas majoritaire. Et donc, autrement dit, il faut peut-être relativiser, si vous voulez, cette victoire, au sens où ils n'auront pas les moyens d'influencer de manière décisive l'évolution de l'Union européenne. Ils n'auront pas les moyens de bloquer les décisions. Ils n'auront pas les moyens non plus de vraiment faire passer des lois, puisque malgré tout, les euros... les partis pro-européens restent largement majoritaires dans ce Parlement de Bruxelles. Donc on peut dire qu'en termes d'influence réelle et véritablement effective, forcément ce sera relativement limité.
La directrice des projets à la Fondation Robert Schuman, think tank dédié aux questions européennes, était jointe à Paris.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont célébré le Memorial Day ce lundi. Lors de cette fête, chaque année, les Américains rendent hommage à ceux qui sont morts au service de l'armée. Jean-Roger Bion.
Au cimetière national d'Arlington, dans la banlieue de Washington, le président Barack Obama a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. C'est le rituel chaque année. Pour l'histoire, l'appellation de cette journée est progressivement passée de Decoration Day à Memorial Day depuis 1882. Ce terme n'est devenu commun qu'après la Seconde Guerre mondiale et ne sera officiellement reconnu qu'en 1967 par une loi fédérale. Le 28 juin 1968, le Congrès adopte le Uniform Monday Holiday Act, déplaçant le Memorial Day sur le dernier lundi du mois de mai, pour un long week-end de 3 jours. Hier dimanche, lors d'une visite surprise, M. Obama s'est adressé aux troupes en Afghanistan, affirmant que l'armée a payé un lourd tribut dans cette guerre.
The bases here in Afghanistan and the towns across America, we will pause. We will pay tribute to all those who've laid down their lives for our freedom.
Dans les bases ici en Afghanistan et à travers toutes les villes aux États-Unis, nous allons marquer une pause et nous allons rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Près de 2200 patriotes américains ont fait le sacrifice ultime, le dernier avec un dévouement suprême ici en Afghanistan. Je sais que vous avez été dignes dans ces tranchées et je sais que beaucoup d'entre vous portez encore aujourd'hui dans vos cœurs le souvenir de vos camarades tombés. Nous allons honorer chacun d'entre eux, pas seulement demain, mais pour toujours. Des défilés d'anciens combattants et d'autres manifestations ont été organisées dans les grandes villes et villages reculés du pays pour honorer ceux qui sont tombés pour la patrie. Le Memorial Day est jour férié pour l'administration et les écoles. Les familles américaines en profitent pour faire des pique-niques ou organiser des excursions à la plage, dans les parcs ou terrains de camping. Le Memorial Day marque le début de la saison estivale aux États-Unis.
Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, place au sport avec Félix Yepasis Zembro. Bonsoir Félix.
Bonsoir Gabi.
Commençons par cette finale incroyable samedi de la Ligue des Champions.
Elle a opposé les deux grands clubs de Madrid, le Real et l'Atlético. Jusqu'à la 93e minute, c'est-à-dire pendant les arrêts de jeu, l'Atlético qui menait depuis la première mi-temps 1-0 avec la victoire empochée. Puis il y a eu cette égalisation à 2 minutes de la fin du match. Et finalement, ce fut un 4-1 en faveur du Real.
Rien n'est encore joué tant que le coup de sifflet final n'a pas été fait. C'est ce qu'on dit souvent en foot. Parlons de la CAN Junior, Félix.
Oui, dans le cadre des éliminatoires de la CAN Junior, les Aiglons du Mali ont été battus 2-0 à domicile en match retour par les Étalons Juniors du Burkina Faso sur le score très surprenant de 2-0. Il faut dire que lors du match aller, les Aiglons maliens avaient laminé les Étalons 3-0, un score qui leur permet aujourd'hui de continuer la compétition. Et puis, notons cette surprenante élimination des Léopards juniors de la RDC par la petite équipe du Malawi. Les Léopards, auteurs d'un match nul 1-1 à Blantyre au match aller, n'ont pas su en profiter à domicile. Vendredi dernier, au stade de Tata Raphaël de Kinshasa, les juniors congolais sont tombés 2-0 face au Malawi. Le Gabon bat le Rwanda 1-0, 0 but aller, et se qualifie pour le troisième et dernier tour.
Parlons maintenant de basketball, la NBA.
Oui, ce soir, Indiana affronte Miami. Mais hier soir, Oklahoma a battu San Antonio 106-97. Désormais, San Antonio mène la série 2-1.
Merci, Félix.
Allez, la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Nathalie. On venait juste écouter ce reportage où cette bande de Jean-Roger Bion, hein, où il parle de Memorial Day. C'était vraiment un week-end mouvementé ici. Hein. Et bien sûr, à cette occasion, Nathalie, on va écouter un morceau. Hein, parce que pour célébrer aussi cette journée, on doit vraiment, vraiment écouter un morceau super cool. Hein, c'est Toby Keith qui nous chante un morceau que j'aime bien, Nathalie, American Soldier. Et comme Jean-Roger Bion venait de le dire, c'est aussi en honneur, pour commémorer un peu, en honneur de tous les morts des guerres, et les soldats américains en particulier. Voilà, donc il y a des gens qui font des barbecues, de pique-niques, je ne sais pas moi, qu'est-ce que
voilà,
Nathalie
c'est
a fait.
Voilà, c'est un long week-end, et moi j'ai remarqué, c'est un très beau week-end. Depuis quelques temps, il fait toujours beau.
C'est important pour ça.
Très beau soleil.
Ben super, on écoute Toby Keith dans American Soldier.
I'm just trying to be a father, raise a daughter and a son, be a lover to their mother, everything to everyone. Up and at 'em bright and early, I'm all business in my suit. Yeah, I'm dressed up for success, from my head down to my boots. I don't do it for the money, there's bills that I can't pay. I don't do it for the glory, I just do it anyway. Providing for our futures, my responsibility. Yeah, I'm real good under pressure, being all that I can be. I can't call in sick on Mondays when the weekend's been too strong. I just work straight through the holidays, sometimes all night long.
Alors, Roger Toby Keith, c'est un compositeur et chanteur américain de country, comme on vient de l'entendre, avec une très belle voix. Il a souvent chanté avec Willie Nelson, Alan Jackson, entre autres.
Exact, Nathalie. Très patriote. Hein. Il joue souvent aussi pour les troupes américaines déployées dans le monde et dans chacun de ses clips. On trouve un drapeau américain, notamment dans cette chanson American Soldier.
Oh, and I don't wanna die for you, but if dying's asking me, I'll bear that cross with honor, 'cause freedom don't come free. I'm an American soldier, an American. Beside my brothers and my sisters, I will proudly take a stand. When liberty's in jeopardy, I will always do what's right. I'm out here on the front lines, sleep in peace tonight. American soldier, I'm an American soldier. Yeah, American soldier, an American.
Une belle chanson qui rappelle la triste réalité de la guerre. Hein. C'était Toby Keith dans American Soldier. Merci beaucoup, Roger.
De rien, Nathalie.
Roger Muntou, que vous retrouvez dans le RM Show à 20h, temps universel.
I'm out here on the front line, so sleep in peace tonight. American Soldier, I'm an American.
Voilà, ici s'achève Le Monde. Aujourd'hui, Joselle Morissin a dirigé la mise en onde. Wagner Robert était à la console technique. Laissez-nous vos messages sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Au micro, chez Romain Dorcil. On se retrouve dans une demi-heure.